France Inter, le 18-20.
Ce soir, pour rentrer chez vous, en moyenne, vous avez mis, vous mettrez, vous êtes en train de mettre une bonne heure. Bouger vous coûte environ 13% de votre budget. Vous êtes un Français sur quatre à avoir refusé un travail un jour parce que, même avec la meilleure volonté du monde, vous n'arriviez pas à voir comment vous rendre au travail, comment en revenir, faute de train, de bus, aux bonnes heures et aux bons endroits. La mobilité, le trafic, le déplacement, c'est votre quotidien. Parfois, ça mine votre quotidien. Engorgement, fracture territoriale. Alors, est-ce que les grandes vitesses sont au bon endroit? Comment sortir certains secteurs d'un isolement problématique? Peut-on voyager plus propre, plus partagé, plus connecté autour de tous ces sujets qui nous concernent tous et tous les jours très directement? La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a achevé aujourd'hui des assises de la mobilité. Ça a duré 3 mois et elle est là ce soir pour répondre à toutes vos questions. C'est parti.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et c'est vous, Franck, qui commencez. Bonsoir, Franck, soyez le bienvenu.
Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir Madame la Ministre.
Bonsoir.
J'ai 49 ans, je suis de la région parisienne, j'habite dans la vallée de Chevreuse. Il se trouve que il y a trois mois, j'ai été contacté par un cabinet de recrutement pour intégrer une nouvelle société qui se trouve à Marne-la-Vallée. Et outre l'aspect financier qui est plus intéressant, je n'ai pas appréhendé l'aspect transport, entre guillemets. C'est-à-dire que je prends ma voiture le matin, je mets entre 1h30 et 1h45 tous les matins. Et là, vous voyez, vous m'appelez, je suis encore en voiture, je viens de me garer, je suis parti à 17h et je ne suis toujours pas chez moi.
17h ?
Voilà. 17h, il y a 57 km précisément. Et je mets tous les jours entre 3h et 4h. Le vendredi, c'est le pire. Ça m'est arrivé de mettre 4h30 pour faire 57 km aller, 57 km retour.
Et Franck, j'imagine si vous prenez la voiture, c'est qu'il n'y a pas d'autre option
En RER, c'est une catastrophe. En plus, étant cadre commercial, je suis, de par ma profession, obligé de me déplacer auprès de clients. J'ai malheureusement pas d'autre solution que de prendre ma voiture. Et par transport, j'ai essayé une fois, alors c'est le RER B, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des problèmes sur le RER, il faut faire X changements à Paris, ça reviendrait presque au même, sauf que je suis amené par ma profession à être itinérant. Et voilà, donc je vous avoue que le soir quand je rentre, je suis vidé.
Du coup, Franck, est-ce que vous vous dites qu'il fallait pas changer de job au final?
C'est toujours facile de dire ça après coup. Maintenant, j'ai 49 ans. Je me dis, est-ce que je continue la période d'essai, même si tout se passe bien? Est-ce que je privilégie ma vie de famille? À 49 ans, retrouver un boulot alors que je suis en période d'essai, c'est pas évident non plus. Mais j'avoue que je me pose la question. Outre aussi l'aspect financier qui faut mettre le plein pratiquement toutes les semaines.
Et la vallée de Chevreuse, ça c'était un choix de vie pour le coup d'habiter la vallée de Chevreuse, de vous éloigner de Paris.
De m'éloigner de Paris parce que ma femme a un travail pas très loin, donc c'est ma femme qui elle est proche de son travail et moi qui ai choisi d'être un peu plus loin. Mais effectivement, il y a des avantages. On a la forêt à côté. C'est vrai que c'est un endroit qui est adorable. On n'est pas très loin de Paris, mais vous voyez, même le week-end, je vais pas à Paris parce qu'il y a trop d'embouteillages. Je sors même plus sur Paris parce que c'est devenu l'enfer. La région parisienne, même pour aller en clientèle sur Paris, on compte plus en kilomètres, on compte en temps. C'est-à-dire que pour avoir un rendez-vous dans le 15e ou dans le 14e, demain la vallée, je mets 1h30.
Une dernière question avant que, évidemment, Elisabeth Borne puisse vous répondre. Pour que ça se passe mieux, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce qui serait avantageux pour vous? Est-ce que, par exemple, s'il y avait un meilleur parking devant le RER, s'il y avait une autre manière, si vous pouviez coupler deux moyens de transport, est-ce que ce serait plus facile pour vous? Ou de toute façon, vous êtes, je vais le dire comme ça, condamné à utiliser votre voiture?
Moi, je suis condamné à utiliser ma voiture. Maintenant, je pense que c'est pas... Alors, il y aurait plusieurs solutions à mettre en place. Un qui rentre dans le débat de ce soir et un autre qui est peut-être un peu plus... déjà développer le télétravail. Ça éviterait d'avoir un engorgement routier tous les jours. Il faudrait que les sociétés soient plus sensibilisées au fait que travailler de chez soi, c'est faisable. Et c'est pas parce qu'on est chez soi qu'on travaille pas, d'une part. Et puis, une régularité des transports en commun. Je parle essentiellement pour les RER, où il y a toujours des défauts. Vous prenez la route, je sais pas si vous l'entendez derrière moi.
Ah oui, j'entends,
Il y a tous les jours un accident. Malheureusement, c'est lié à l'engorgement routier des grandes agglomérations. Je pense que c'est pas uniquement Paris. Mais si on pouvait faire que les transports en commun soient plus performants en termes d'horaire, soit plus performant en termes de régularité et qu'on, en plus, on puisse développer le télétravail, ben, je prêche pour ma paroisse, bien évidemment, mais je pense que ça améliorerait peut-être un peu les choses.
Alors, il y a beaucoup de gens qui appartiennent à votre paroisse au téléphone sonne ce soir. Franck, merci beaucoup pour votre témoignage. On va vous laisser reprendre la route. Soyez prudent parce qu'en plus, ça marche en escadrille ce soir. Il pleut, non, au-dessus de vous.
Merci beaucoup.
Merci, merci à vous. Bonsoir Elisabeth Borne, ministre des Transports. Donc qu'est-ce qu'on peut répondre à Franck ? Il y a deux choses dans ce qu'il dit qui sont intéressantes. D'abord, la première, voilà quelqu'un qui est coincé, en fait, qui ne peut pas faire autrement que d'utiliser sa voiture.
Alors, je pense que c'est effectivement une situation qu'on rencontre dans trop d'endroits en France, hein, de pas avoir le choix, de pas avoir d'alternative à l'utilisation de la voiture. Et du coup, ça débouche sur des solutions du type de celles que nous décrivait Franck, hein, de gens qui passent une heure et demie pour se rendre à leur travail, et puis la même durée le soir. C'est aussi le cas, et je pense qu'il faut qu'on en soit tous conscients, dans toute une partie du territoire qui est enclavée. Pour le coup, il n'y a pas du tout d'alternative à la voiture. Et c'est face à ces enjeux, à la fois des territoires dans lesquels on vit l'enclavement, on a du mal à se rendre à son travail, à sa formation, parce qu'il y a des routes qui n'ont pas été mises à niveau, parce qu'il n'y a pas du tout de transport en commun, ou alors dans les périphéries des agglomérations où on a une congestion automobile qui s'aggrave d'année en année. Donc c'est face à ces enjeux que moi j'ai décidé de lancer les Assises nationales de la mobilité.
Identifier ça, Madame Borne, les endroits effectivement qui sont tellement enclavés. Donc, est-ce que ces priorités-là, ces priorités territoriales, sont réellement identifiées ? On peut dire ici, oui, il manque un endroit et ça désenclaverait terriblement ce qui se passe autour.
Alors là, on est plus dans les zones rurales, hein, et en effet, il y a encore une bonne partie de notre territoire auquel on promet depuis des années la mise à niveau d'une route nationale. C'est repoussé de contrat de plan en contrat de plan. Et moi, j'ai pu rencontrer, hein, en me déplaçant à l'occasion des Assises de la mobilité, que ce soit par exemple à Aurillac. Quand vous êtes à Aurillac, vous mettez une heure et demie pour rejoindre l'autoroute. Quand vous êtes à Prades, ça fait des décennies qu'on vous promet une amélioration de la route nationale. Et il n'y a aucune solution de transport en commun. Et puis, dans le même temps, on a effectivement les métropoles qui se développent, mais les emplois qui se recentrent dans le cœur des villes et les gens qui habitent de plus en plus loin. Donc ça appelle vraiment à des réflexions un petit peu globales aussi, hein, sur le choix de développement qu'on fait autour de nos villes. Mais en termes de mobilité, ça appelle des réponses à la fois pour désenclaver un certain nombre de régions qui sont encore privées de routes à bon niveau, et puis pour répondre à ces enjeux d'engorgement, d'embouteillage dans les grandes agglomérations.
Et on va y revenir tout au long de ce téléphone sonne. Il y a deux autres choses dans ce que dit Franck, qui éventuellement pourrait prendre le RERB, qui parle d'horaire et de régularité. Ça aussi, ça revient très régulièrement. Comment on fait pour rendre ces RER qui sont, là pour le coup, on parle à la région parisienne, qui sont bondés, terriblement bondés, et dont la régularité, effectivement, est parfois à revoir.
Donc effectivement, en Île-de-France, il y a des transports en commun. Il faut savoir qu'il y a près de 13 millions de voyages chaque jour en Île-de-France. Donc il y a des transports en commun qui sont très puissants, mais qui sont aussi très sollicités. Et il faut absolument continuer à investir sur ces transports. On investit beaucoup. Vous savez que dans le cadre du contrat de plan État-Région 2015-2020, on va investir 7,5 milliards d'euros. Et puis, il y a aussi un autre grand projet qui intéresse sans doute Franck, qui est le projet de métro du Grand Paris Express, qui, pour le coup, permettra de se déplacer de banlieue à banlieue sans passer par Paris, ce qui est évidemment très important pour les équilibres de la région. Il passera aussi dans des secteurs de la région Île-de-France qui sont moins bien desservis, et il évitera à tout le monde de devoir passer par Paris.
Mais ça veut dire qu'on ne peut pas parler de court terme.
Justement, l'ambition des Assises de la mobilité, c'est de dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des réponses à court terme. Et ces réponses, notamment dans les périphéries qui sont
là,
très engorgées...
Là, par exemple, effectivement, périphérie de Paris, le court terme, ça veut dire quoi
si on... Moi, je pense que pour toutes les métropoles qui vivent aujourd'hui les embouteillages, il faut absolument qu'on arrive à développer le covoiturage. Alors, ça peut paraître une réponse un petit peu marginale. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut qu'on encourage massivement au covoiturage. Ensuite, c'est simple. Si vous avez trois personnes dans une voiture plutôt qu'une seule, eh bien, vous aurez trois fois moins de voitures et tout le monde roulera plus facilement. Et donc, encourager le covoiturage, c'est bien sûr soutenir ceux qui proposent des solutions de covoiturage. Vous savez qu'on aide une entreprise comme Blablacar avec notamment des financement du ministère. Et puis, on peut aussi prévoir des voies dédiées sur les autoroutes. C'est ce que j'ai inauguré, par exemple, récemment, pas très loin de là où habite Franck, sur l'autoroute A10. On fait une voie dédiée pour les transports en commun,
qui existe dans certains pays, qui existe aux États-Unis par exemple,
et on étudie les dispositifs techniques qui nous permettront aussi de les ouvrir au covoiturage. Donc, encourager le covoiturage, y compris en donnant un bénéfice immédiat, parce que vous aurez des voies dédiées.
Allez, on prend le train avec Léo. Bonsoir Léo, soyez le bienvenu dans le téléphone sonne, on vous écoute.
Bonsoir Madame la Ministre, bonsoir Madame Santès. Donc moi je travaille à Angoulême et j'ai décidé d'habiter depuis cet été à Bordeaux pour des raisons familiales. Parce qu'il y avait la ligne LGV qui arrivait et qui permettait depuis donc début juillet de relier Bordeaux à Angoulême en 35 minutes. Donc depuis le mois de juillet, ça se passe très bien. Il y a deux trains idéaux pour aller travailler, un le matin à 8h et un le soir pour rentrer à 18h. Et donc depuis lundi dernier, la SNCF, dans sa nouvelle grille horaire, a décidé de supprimer ces deux trains. Donc, unilatéralement, sans discussion ni avec les abonnés, ni avec les élus du territoire. La SNCF nous renvoie soit vers les TER en disant, bah voilà, Angoulême, c'est pas si loin que ça de Bordeaux, on n'a pas à desservir forcément en grande vitesse une distance si courte, puisqu'il y a une bonne centaine de kilomètres. Sauf que le TER il met 1h30 et sinon on revient à la voiture et en voiture on met aussi 1h30 avec les bouchons bordelais et on est en horaire un peu incompatible avec moi notamment je dépose mes filles à partir de 7h30 à l'école et maintenant je dois prendre le train le matin à 7h du matin.
Et Léo, ça vous fait rediscuter effectivement sur ce choix que vous avez fait d'habiter à Angoulême?
D'habiter à Bordeaux et d'aller travailler Angoulême.
D'habiter Bordeaux, ouais.
Tout à fait. Ça me rend aujourd'hui quasiment impossible le fait de devoir, d'avoir ce trajet. Ou alors, avec mon employeur, on a déjà discuté d'arriver avec des horaires un peu décalés. Mais on est obligé de se caler sur des horaires différents, alors que les trains existaient, alors que le principe fonctionnait, que ça a été vendu ainsi aussi aux gens qui ont changé de travail. Hein. On est plusieurs à avoir soit changé de travail, soit changé de lieu de résidence depuis le 1er juillet en ayant connaissance de ces horaires. Il y avait en plus un engagement fort de rester sur ces horaires plusieurs saisons. Et voilà, et de but en blanc, sans préavis, on le sait depuis le mois d'octobre, que quand la grille de décembre est arrivée, que ces trains-là étaient supprimés. On essaye de se battre avec la SNCF, on est un petit groupe d'abonnés pour essayer d'avoir gain de cause sur une restitution de l'offre. Mais pour l'instant, on nous dit non, débrouillez-vous. Vous avez soit vous parlez avec la région pour qu'ils rajoutent des TER, soit...
Soit vous prenez votre voiture,
puisque moi, ça ne me donne pas le choix. Soit vous prenez des horaires complètement fous. Hein. Ça me fait normalement maintenant prendre le train à 7h du matin et rentrer chez moi à 20h, ce qui n'était pas du tout la bonne, mais il y a encore une semaine.
Merci beaucoup pour votre question, Léo. Elisabeth Borne, c'est le sens de la question de Michel aussi, qui vient de Montélimar, mais qui dit la même chose. Beaucoup de petites et moyennes villes vont voir annuler leur desserte d'arrêt TGV. Quelle est votre position par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Léo?
Non, mais il n'en est pas question. Hein. Je pense que le modèle du TGV en France, c'est d'abord un modèle de TGV accessible à tous. Et il y a beaucoup de Français qui trouvent que les billets sont trop chers. La SNCF développe une politique maintenant pour avoir des offres moins chères. C'est notamment tous les développements du TGV Ouigo. Et moi, je peux que l'encourager à aller dans ce sens-là. Quand on construit des lignes à grande vitesse qui coûtent des milliards, alors il faut qu'il y ait beaucoup de trains et beaucoup de voyageurs.
Mais alors les horaires?
Et donc, sur les horaires et sur la desserte des villes moyennes, ça fait partie de notre modèle TGV, que les TGV circulent non seulement sur les lignes à grande vitesse, mais qui desservent également les villes petites et moyennes. Donc moi, je voudrais rassurer les Français qui peuvent s'inquiéter parce qu'ils sont dans des villes moyennes et qui peuvent craindre de voir disparaître leur desserte. On reste attaché à ce modèle, le gouvernement est attaché à ce modèle. Je pense qu'il faut qu'on ait en tête, parce que les équations, on va dire, du système ferroviaire sont très compliquées, avec une dette de 50 milliards d'euros. On maintiendra ces dessertes. Ça veut simplement dire que on ne peut pas imaginer régler le problème de la dette de la SNCF en augmentant les péages. Il faut permettre à des TGV nombreux de circuler, avec des billets accessibles à tous et en continuant la desserte des villes moyennes.
J'ai bien compris, vous gardez les dessertes des villes moyennes, Isabelle Bird, mais qu'est-ce qu'on fait avec les horaires ? Là, Léo, pour le coup, part une heure plus tôt, revient deux heures plus tard. Alors, est-ce qu'on peut appuyer sur la SNCF en disant, attendez, puisque le TGV sert aussi aux gens qui travaillent, c'est pas seulement de la longue distance, c'est aussi un Angoulême-Bordeaux ou un Bordeaux-Angoulême, laissez les horaires aux heures de travail. Est-ce qu'on peut répondre ça, Léo ?
Moi, je ne sais pas vous répondre en particulier sur la modification d'horaire. Je comprends que ce n'est pas une annulation d'un train, mais que c'est un horaire qui a changé et qui est moins commode pour se rendre au travail le matin. Il faut effectivement qu'on tienne les promesses qui ont été faites. Il faut aussi qu'on s'interroge sur pourquoi les TER ne sont pas performants. Et je pense que c'est aussi une grande question et une des priorités qu'on va avoir. On a en Ile-de-France des RER, on entend que ça ne marche pas forcément aussi bien que tout le monde pourrait le souhaiter et que je le souhaite moi-même, mais on va effectivement moderniser, investir pour que ça marche mieux. Et puis, c'est aussi un sujet, autour de nos grandes métropoles en région, on n'a pas le système de transport cadencé, fréquent, qu'on peut avoir en Ile-de-France. Et je pense que j'ai évoqué le fait qu'il va falloir désenclaver les territoires et que le gouvernement se donne l'objectif d'achever le désenclavement du pays, ces routes nationales qui manquent depuis des décennies, en une décennie justement. Mmh. Et dans le même temps, il va falloir aussi qu'on développe un réseau ferroviaire adapté qui tiennent compte de l'émergence de ces métropoles et des besoins de transport très importants dans nos grandes villes, aussi en région.
Mais pour finir avec le cas de Léo, parce qu'il y en a d'autres qui sont comme ça, on décide de faire des choix de vie parce que le TGV offre la possibilité de ce choix de vie. Donc c'était le cas au 1er juillet, mais c'est plus le cas aujourd'hui au 12 décembre. C'est quand même un drôle de truc.
Il y a sans doute un enjeu de concertation dans lequel il va falloir effectivement que la SNCF s'engage davantage.
Et vous allez leur dire, du coup, vous allez leur demander ?
Je pense que c'est très important que les gens aient de la visibilité. Évidemment, comme vous le soulignez, on fait des choix de vie, donc c'est important d'avoir de la visibilité.
Laurence, vous habitez près de Biot, c'est dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir Laurence, soyez la bienvenue.
Oui.
J'allais dire, oui, Biot ou Biot, pardon ?
Biot,
autant pour moi. Autant pour moi, pouf pouf,
voilà,
allez-y.
C'est un village perché, juste près d'Antibes, sur la Côte d'Azur.
Vous avez de la chance.
Un petit peu en retrait du littoral, avec un petit peu d'environnement pas trop endommagé. Et voilà, le paradoxe est le suivant, c'est que oui, nous souffrons de thrombose, nous souffrons d'embouteillage, et on nous impose, on essaie de nous imposer, SNCF Réseau, les politiques, les grandes entreprises, essaient de nous imposer une ligne TGV à 4,2 milliards pour faire 24 kilomètres, qui irait de Nice à peine jusqu'à Cannes, ils appellent ça la boucle niçoise, pour désengorger. Or, c'est une fausse bonne solution. Donc, autrement dit, c'est pour faire passer un TGV qui est l'arc méditerranéen, mais on le passe sous le prétexte de mobilité du quotidien. Donc, c'est vrai que nous, les Biotois, on s'est insurgés parce que on avait peur des deux viaducs qui allaient passer sur notre charmante commune. Mmh. Mais on s'est penché sur le problème. Il y a toutes sortes de gens, il y a des locaux, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, et on s'est fait aider. Et on s'aperçoit que on tombe sur la tête là. C'est un coup faramineux, alors qu'une technopole qui est très étendue, qui reçoit donc des gens et des étudiants de toute la région, le TGV n'est pas la solution. En revanche, des mobilités modernes, innovantes, des covoiturages, des voies dédiées, on a aussi le bus tram, il y a plein de solutions, et les gens sont prêts à aider la communauté de communes à réfléchir là-dessus. Mais on a l'impression d'avoir cette espèce de gros mastodonte, et donc nous avons participé, différentes associations, aux assises de mobilité, etc., mais donc je voulais demander à Madame la Ministre si elle voulait bien nous entendre. On a peur que notre dossier, dans la masse des avis qui vont être soumis au cours de des assises, passe à la trappe. Et donc, voilà.
Laurence, elle vous entend, oui. Elisabeth Borne, elle va pouvoir vous répondre. Nice-Cannes, cette boucle niçoise, Elisabeth Borne, est-ce bien nécessaire ? C'est ça le sens de la question de Laurence.
Moi, je voudrais vous rassurer, hein, ce que vous dites correspond tout à fait aux priorités que porte le gouvernement. Pendant des années, on a un peu réduit la politique des transports à une politique du tout TGV. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 36 milliards d'euros de lignes à grande vitesse qui ont été promises dans tout le pays. Alors, moi, je n'ai rien contre le TGV, je note simplement
mais
que les Français...
Mais vous ne les ferez pas toutes.
Je note que les Français, ils attendent de nous, d'abord, qu'on réponde à leurs problèmes de transport, de la vie quotidienne. Et comme vous l'avez souligné, madame, la bonne nouvelle, c'est qu'on a énormément de nouvelles solutions qui émergent. L'autopartage, le covoiturage. Je tiens aussi à souligner l'importance du vélo, les mobilités actives. Non seulement c'est bien pour se déplacer, mais c'est aussi bon pour la santé. Et on a des vélos à assistance électrique, c'est peut-être utile là où habite madame. Mais on a plein
entre
de nouvelles solutions.
Le vélo, faut avoir de bonnes jambes.
On a plein de nouvelles solutions. On aura demain aussi des véhicules autonomes qui viendront compléter les offres de mobilité, y compris dans des zones qui sont peu denses et où les solutions de transport en commun aujourd'hui ne répondent pas. Le sujet... Il faut aussi que chacun l'ait en tête, c'est que on a une énorme zone blanche en termes de mobilité. On parle souvent des zones blanches en termes de santé, des zones blanches en termes de téléphone. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 80% du territoire dans lequel on n'a pas une autorité organisatrice. Donc, en fait, les acteurs publics, les collectivités ne s'occupent pas d'organiser la mobilité pour les concitoyens.
Mais alors, pardon, Madame Borne, comme là où habite Laurence, pour cette fameuse question de Laurence, entre Nice et entre Cannes, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile?
On est en train de faire le tri dans tous les grands projets qui ont été promis. Je sais qu'il y a des acteurs qui sont attachés à cette ligne nouvelle Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moi, j'entends et j'ai entendu tout au long des assises que les gens attendent d'abord de nous les investissements qui vont améliorer leur quotidien. Il faut qu'on entretienne, qu'on modernise nos voies ferrées. Pendant qu'on aura inauguré, vous savez, en 18 mois, on aura inauguré 4 lignes à grande vitesse en France. Et dans le même temps, on a 5300 km de ralentissement sur le réseau classique. Et le réseau classique, ça n'est pas un réseau secondaire, c'est le réseau sur lequel circulent les TER. Et donc quand je dis 5300 km de ralentissement, ça veut dire que tous les jours, il y a des Français qui prennent leur TER, qui roulent parfois à 40 km/h. Donc ça devient assez dissuasif, on prend sa voiture et on tombe dans des embouteillages. Donc priorité à l'entretien, à la modernisation du réseau. Priorité au développement de solutions, toutes ces nouvelles mobilités dont on peut s'emparer et dont il faut qu'on aide les collectivités à s'emparer pour répondre d'abord aux priorités des transports de la vie quotidienne des Français.
Alors justement, pour rester sur les lignes à grande vitesse, il y a une valse d'hésitation, on nous dit cet auditeur sur franceinter.fr, concernant l'aboutissement des lignes à grande vitesse à Toulouse et dans la région Occitane. Toulouse est la métropole française la plus éloignée de la capitale et nous n'avons pas d'autre choix que l'avion. Là aussi, est-ce que ça fait partie de ces projets où vous dites pour l'instant, la grande vitesse, en gros, c'est fini ou en tout cas, c'est plus la priorité?
Je ne dis pas du tout que la grande vitesse, c'est fini. Je dis qu'il va falloir faire des choix et qu'on a vraiment un enjeu qui est de désenclaver les territoires, de répondre aux besoins de mobilité de la vie quotidienne. Donc on aura aussi un débat sur les ressources, on pourra continuer à faire des lignes à grande vitesse, mais moi je dis simplement que la priorité, c'est d'assurer le désenclavement du pays. Et dans le même temps, on discute avec les collectivités. Vous savez, quand on vient vous porter un projet de 10 milliards d'euros, on se dit qu'il faudrait peut-être réfléchir à un phasage. Donc voilà, on travaille avec les collectivités pour trouver des ressources, pour phaser des projets. On peut essayer de répondre à ces attentes sur les lignes à grande vitesse, mais la priorité, c'est les transports de la vie quotidienne. Et je pense que vos auditeurs, ce qu'on entend déjà depuis ces premières questions, c'est que c'est bien là qu'ils attendent qu'on les accompagne pour avoir des meilleures mobilités tous les jours.
Donc on a bien compris, la grande vitesse, c'est pas la priorité, c'est pas tout à fait fini, on va dire, mais c'est loin d'être la priorité. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir,
on vous écoute, Ludovic, allez-y.
Merci de me pouvoir répondre à ma question. Bonsoir Madame la Ministre,
bonsoir
France Inter. Ma question est la suivante. Est-ce que la construction de nouveaux contournements, je parle de celui de Strasbourg et celui de Rouen, dont la déclaration d'utilité publique a été déclarée là au mois de novembre, est-ce qu'on peut mettre ça dans la mobilité du futur? Est-ce que ça répond aussi aux enjeux écologiques? Hier, on a eu un très beau sommet. Est-ce qu'on est un petit peu contradictoire avec nos objectifs?
Merci.
Entre d'une part, créer un appel d'air à la route et de l'autre, développer une politique environnementale. Moi, ça m'embête beaucoup.
Ludovic, merci pour votre question, Elisabeth Borne. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, effectivement ?
Je pense que on ne peut pas avoir des réponses en tout noir, tout blanc. Et en l'occurrence, si monsieur parle du contournement de Strasbourg, c'est un projet qui vise aussi à sortir la circulation du cœur de Strasbourg, à rendre ces voies disponibles pour des mobilités plus douces. C'est un projet qui s'accompagne aussi d'une requalification, d'un réaménagement des routes existantes et qui s'inscrit dans une stratégie globale d'aménagement de la métropole de Strasbourg. Donc on ne va pas passer d'un excès à l'autre et je pense qu'on continuera à faire certains contournements. Ils peuvent être dans des zones sensibles et je sais que c'est le cas à Strasbourg. On sera extrêmement vigilant sur la qualité de l'insertion environnementale de ce projet. Mais il faut être clair, hein, moi je suis très attaché à une mobilité durable, propre, et ça fait aussi partie des engagements que je porterai dans la loi l'an prochain. C'est évidemment un enjeu que porte Nicolas Hulot. Il faut une mobilité propre. Les voitures demain
seront propres. Dont vous dépendez,
il
faut le rappeler à ceux qui nous écoutent, les transports dépendent de Nicolas Hulot.
Voilà, et donc, évidemment, moi je défends une mobilité propre, mais les véhicules demain seront avec des motorisations électriques, au biogaz, et il faut aussi être conscient qu'il y a une bonne partie du territoire dans lequel la voiture restera la solution, donc on ne peut pas être contre la voiture. Il faut permettre aux Français de sortir de la dépendance à la voiture, il faut que la voiture, ce soit une mobilité propre et partagée, et c'est le sens de la politique que je porte.
La question de Yves sur franceinter.fr, on revient à un vrai déplacement quotidien, mobilité pour aller travailler. Vous parliez du covoiturage et peut-être d'une voie supplémentaire pour les gens qui font du covoiturage. Cette question, il y a bien sûr des gares, mais encore faut-il qu'on puisse garer sa voiture près de la gare. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à inventer? On parlait des États-Unis et de leur voie spéciale, effectivement, il existe dans les pays anglo-saxons ce qu'on appelle des kiss and ride, c'est-à-dire qu'il y a des parkings à l'entrée des grandes gares pour que les gens puissent entrer en ville ensuite avec les transports en commun. Ça existe à peine chez nous.
Oui, on a un véritable enjeu sur le développement de ce qu'on appelle les pôles d'échange. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des gares qui sont bien desservies, qu'on puisse permettre aux gens de venir se garer, soit en voiture, soit à vélo. Et on a aussi souvent un manque de places de stationnement, de garages sécurisés pour le vélo dans nos gares. Donc cet enjeu de la bonne coordination, l'enchaînement facile du vélo ou de la voiture pour aller prendre un train, c'est un enjeu prioritaire. Ça supposera qu'on réfléchisse à la façon dont les différentes collectivités qui sont en charge de la mobilité vont travailler ensemble pour qu'on puisse organiser un parcours plus fluide et qu'on puisse enchaîner facilement un trajet en covoiturage ou en voiture ou en vélo, un trajet en transport en commun, le continuer en VTC. Donc toute cette chaîne, on doit à la fois l'organiser par une discussion entre les différentes collectivités qui sont responsables de certaines parties de ces solutions. Et puis, pour le coup, je pense que le digital sera aussi très utile puisque ça permet de développer des applications qui vous permettent d'organiser votre voyage de bout en bout et j'espère aussi de le payer.
Pour vous, Nicolas, il n'est pas question de vélo. Bonsoir à vous, soyez le bienvenu.
Bonsoir.
Oh, on vous écoute, allez-y. Je ne dis pas de vélo parce que vous avez de la route.
Voilà, absolument. Moi, je fais de la route tous les jours puisque j'habite à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, et je travaille à Compiègne, dans l'Oise. Donc, chaque jour, j'emprunte l'autoroute A1 avec le merveilleux péage de la SANEF. Encore une augmentation de prévue entre 2019 et 2023. La SANEF est quand même un des seuls sociétaires qui ne propose pas d'abonnement de travail. Donc chaque jour, je paye 2,40 pardon, pour rejoindre mon boulot. Donc voilà. Pourquoi ne pas repartir sur une nationalisation des autoroutes, puisque c'est vrai que c'est indispensable aujourd'hui la mobilité, notamment dans le travail. Bon, ma compagne s'est mutée dans le Nord, donc on était obligé de déménager. Alors qu'on voit bien que les autoroutes rapportent des millions d'euros chaque année. Et évidemment, encore une fois, c'est le consommateur qui paye. À quand le retour des autoroutes nationalisées?
Merci beaucoup pour votre question, Nicolas. Question directe, Elisabeth Borne, à quand le retour des autoroutes nationalisées? Et à minima, c'était la deuxième partie de la question, abonnement travail quand même.
Alors, la nationalisation des autoroutes, vous savez qu'il y a eu un débat important sous le précédent gouvernement, donc je pense que c'est pas un sujet qu'on a envie de rouvrir. Je pense qu'il faut qu'on puisse effectivement veiller à ce qu'on propose des abonnements sur les autoroutes, à ce qu'on encourage le covoiturage sur les autoroutes, à ce qu'on encourage aussi les véhicules propres. Donc c'est des discussions qu'il faut qu'on ait avec les sociétés d'autoroutes. Sans parler de nationalisation, il faut que les sociétés d'autoroutes accompagnent notre politique de mobilité en facilitant les déplacements quotidiens.
Mais il faut, est-ce que vous avez un moyen de pression vers ces sociétés quand même?
On a des contrats avec ces sociétés, mais je pense que ces sociétés, elles sont prêtes à se mettre autour de la table pour discuter avec nous sur la façon dont elles vont s'associer à la politique de mobilité, à la priorité au transport de la vie quotidienne que porte le gouvernement.
Et genre justement, puisque vous parliez de ce qui avait été décidé ou pas décidé d'ailleurs lors du précédent gouvernement, j'ai vu passer cette phrase, je pense que c'était pendant les assises de la mobilité, sans refaire l'écotaxe, faire payer les poids lourds reste une possibilité. Où on en est de cette réflexion-là, on va dire,
Écoutez, payer les poids lourds. On en est effectivement, donc moi je vous l'évoquais au départ, on vient de terminer 3 mois de débat extrêmement riche avec les citoyens et tous les acteurs. On réfléchit aux nouvelles solutions de mobilité, on réfléchit, et ça sera la première fois, on va avoir une loi de programmation des infrastructures pour arrêter de promettre des lignes à grande vitesse dans tout le pays sans avoir répondu à la question de leur financement. Donc l'an prochain, je proposerai une loi qui intégrera une partie loi de programmation avec des engagements sur les priorités que j'évoquais et aussi avec des ressources. Et forcément, parmi les ressources auxquelles on est en train de réfléchir, il y a naturellement la question de comment les poids lourds, notamment les poids lourds qui transitent par notre pays sans acheter leur carburant et donc sans payer la taxe sur les produits pétroliers sur notre territoire, peuvent contribuer au financement de nos infrastructures et de notre politique de mobilité. Donc c'est un sujet qui est sur la table et qui va être débattu dans le cadre de la loi que je présenterai l'an prochain.
On retourne dans le RER avec vous, Gilles. Bonsoir, on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci pour votre émission. Merci de prendre ma question. Donc moi, voilà, c'est à la fois un témoignage et une question. Moi, j'ai 58 ans, ça fait 30 ans que j'habite juste à côté du RER et j'ai vu cet RER se dégrader complètement.
C'est le lequel, RER pardon? Ah pardon, le B, d'accord.
Okay. Et donc, j'habite à Bures-sur-Yvette. Et il y a 30 ans, c'était une horloge, on pouvait le prendre pour aller à l'aéroport, il n'y avait pas de souci, on était tranquille. Aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. Tous les jours, il y a quelque chose, les milliers de gens voyagent dans des conditions pas possibles. Je vais vous donner juste deux exemples. Vous revenez de Paris à 11h du soir, les trains sont courts, vous êtes debout. Vous êtes debout comme aux heures de pointe. Ça, c'est quelque chose qu'on peut changer très facilement. Et je peux vous donner un autre exemple aussi. Le gros investissement sur 30 ans sur ce matériel roulant, ça a été de retirer des sièges assis pour pouvoir mettre plus de gens debout. Donc les gens, ils sont stressés, extrêmement stressés, les chauffeurs aussi. Hein, et dans des conditions en plus de sécurité qui se sont énormément dégradées, ce qui fait que tous les jours, presque, il y a un problème. Ce qui est très stressant pour les gens. Et ma question est la suivante.
Allez-y.
Vous savez que cette ligne de RER B, elle conduit à Paris-Saclay, la nouvelle université phare dont on parle beaucoup en com. Et je voudrais savoir quels sont les plans du ministre des Transports, comment elle envisage le transport de milliers d'étudiants sur ce plateau de Saclay dans de bonnes conditions, alors qu'aujourd'hui, alors qu'ils ne sont pas encore là, c'est une véritable catastrophe.
Merci beaucoup pour votre question et votre témoignage, Gilles, qui connaissait bien donc cette ligne B. Lorsque les étudiants iront jusqu'à Saclay, est-ce que déjà on aura réussi à faire en sorte que le RER B fonctionne mieux, qu'il y en ait plus, que ce soit plus simple ou pas?
Moi, je peux vous assurer que l'État et la région sont très mobilisés pour améliorer le fonctionnement des RER. Peut-être, monsieur, effectivement, au cours des dernières années, vous notez que le trafic s'est dégradé, que la situation s'est dégradée sur le RER B. Je pense qu'il y a aussi eu une très forte augmentation de la fréquentation de ce RER qui explique aussi sans doute la dégradation, mais je le disais, 7,5 milliards d'investissements sont prévus dans le contrat de plan État-Région et il est absolument fondamental qu'on arrive à améliorer ces transports du quotidien. Il y aura aussi le Grand Paris Express qui est une réponse, mais comme vous le soulignez, à plus long terme et sans attendre, on doit investir dans nos transports de la vie quotidienne. L'État accompagne la région Île-de-France pour moderniser les infrastructures et les matériels roulants en Île-de-France. Et puis sur Saclay, sans attendre les lignes du Grand Paris Express, on doit certainement pouvoir renforcer aussi les liaisons en site propre, en bus, qui permettront aux étudiants de se rendre sur le plateau de Saclay.
Madame la ministre, vous n'échapperez pas à la question de Didier de Nantes. Qu'allez-vous décider pour Notre-Dame-des-Landes? Y aura-t-il un aéroport nouveau ou un aménagement de l'actuel? S'il vous plaît, ne me répondez pas qu'on va étudier ce que dit le médiateur. Vous avez forcément une opinion, Elisabeth Borne, là-dessus?
Ah, écoutez, le rapport vient d'être remis et je pense
que... Le transport, c'est l'avion aussi.
Voilà, le transport, c'est aussi l'avion. Le rapport vient d'être remis. Comme ça a été souligné par le Premier ministre, un point important, l'élément nouveau qui est mis sur la table au travers de ce rapport, c'est d'une part, il y a deux choses. D'une part, il y a effectivement une croissance du trafic dans le Grand Ouest et il faut répondre à cette croissance du trafic. Jusqu'à présent, on avait placé les élus, les citoyens, les entreprises dans l'alternative Notre-Dame-des-Landes ou rien. Ce qui est mis sur la table, c'est qu'il y a une alternative de réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. C'est ce qui va être maintenant discuté avec les élus et avec les acteurs du territoire.
Je vous entends pencher, pardon, hein, mais vous me faites une réponse qui ressemble à celle de Nicolas Hulot qui était ici à votre place il n'y a pas si longtemps. Je vous entends pencher vers le réaménagement de Nantes-Atlantique.
La décision du gouvernement sera prise sur la base du rapport après avoir écouté les acteurs qui viennent de recevoir ce rapport et la décision sera prise avant fin janvier.
Allez, Pascal nous appelle. Merci Pascal de nous appeler. Merci de faire vite parce que le temps tourne. Bonsoir à vous, soyez le bienvenu.
Bonsoir à tous, merci de m'écouter. J'habite à La Charité-sur-Loire dans la Nièvre et pour moi, il faut mettre en place ce qu'avait promis François Mitterrand, c'est-à-dire la décentralisation. Il faut arrêter la croissance des villes et nous à La Charité-sur-Loire, il n'y a jamais d'embouteillage.
Vous avez de la chance.
Et par contre, il y a de moins en moins d'entreprises, il y a de moins en moins de salariés, il y a des logements vacants en pagaille. Et
on a bien compris, Pascal, ce que vous êtes en train de nous dire. Effectivement, ça s'appelle la décentralisation. Le désenclavement passe aussi par là. On a l'impression que le travail, évidemment, le travail est concentré dans certains endroits, pas dans d'autres. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher aussi dans ces directions-là.
Moi, c'est vraiment le sens de la politique que porte le gouvernement. Effectivement, il ne faut pas laisser des territoires comme celui que vous évoquez avec un défaut de desserte, avec des routes qui ne sont pas au niveau, ce qui fait que les emplois, les entreprises quittent ces territoires pour aller se concentrer dans des métropoles où on vit ensuite les situations difficiles qu'on a entendues. Donc c'est vraiment le sens du plan de désenclavement complet de la France à l'échelle du décennie que porte le gouvernement. Il faut donner toutes leurs chances à tous les territoires, y compris les petites villes, les villes moyennes, où vous l'avez bien dit, il fait bon vivre et donc il faut que les entreprises puissent y rester parce qu'elles auront des transports efficaces et qu'on arrête d'engorger les métropoles où les conditions de transport sont déjà difficiles.
Laure, vous êtes la dernière, allez-y, on vous écoute, soyez la bienvenue.
Oui, merci. Bonsoir, Madame la Ministre. Merci de me donner l'opportunité d'échanger sur le problème de la pollution sonore ferroviaire. Vous êtes bien au courant que depuis le 2 juillet, la vie de milliers de personnes est impactée par la pollution des trains. Comme vous le savez, l'émergence des sons est insupportable puisque la quantité de décibels moyenne dans la campagne qu'on adore est de 40 et que quand les trains passent 80 fois par jour, bientôt 120 fois, avec le fret de nuit, nous prenons plus 30 décibels dans nos oreilles. Eiffage nous a menti, Eiffage a dit que la campagne ne serait pas impactée comme entendraient les oiseaux.
Laure, vous êtes où? Pardonnez-moi, Laure. Vous êtes dans la Sarthe, d'accord.
C'est Savigny la ligne l'évêque, Savigny Environnement.
Donc c'est la ligne Paris-Rennes, la vôtre, c'est ça?
Nous sommes une association, voilà, une association de riverains très dynamique et qui voulons absolument nous faire entendre. Donc en fait, si vous voulez, Eiffage n'a rien fait. Eiffage a fait des petits murs anti-bruit. Eiffage a fait des petits merlons. Eiffage a fait des trous entre les protections.
On vous entend, Laure. Pardonnez-moi de vous interrompre, Laure, mais l'heure est en train de tourner. On vous entend. Pollution sonore de très grandes variations de décibels. Là, vous êtes sur Paris-Rennes. Rapidement, Elisabeth Borne pour répondre.
Alors, effectivement,
il y en a beaucoup des questions comme
celle-là. On a ces questions à la fois sur la ligne nouvelle avec la Bretagne et sur la ligne nouvelle Tours-Bordeaux, sur lesquelles des riverains se plaignent des nuisances sonores. On est en train de faire une campagne de mesures. Les concessionnaires avaient des obligations. On va vérifier qu'ils les respectent.
Merci beaucoup, Elisabeth Borne. Merci de votre passage dans le téléphone sonne. Merci à vous tous qui avez beaucoup appelé massivement. Merci encore.